besoin d'une pause. Et on a dans le livre des psaumes, justement, l'occasion de pouvoir faire des pauses. Et si Dieu a créé le septième jour pour se reposer, c'est bien parce qu'il savait que nous aurions besoin aussi de repos, quelquefois. Faire une pause dans la vie, ça peut être justement vital, hein, très important. D'ailleurs, on estime à près de 3 millions de Français qui sont au bord du burn-out. Vous savez, cette nouvelle expression pour dire que les gens tellement pressés par le travail craquent à un moment donné et ne sont plus aptes à ne rien faire du tout. Et donc, sombrent même un petit peu dans, c'est une sorte de dépression, de temps difficile en tout cas. Et près de 3 millions, c'est quand même impressionnant quand on réfléchit à cela. 3 millions de personnes, 3 millions de Français au bord du burn-out. Alors, est-ce que les chrétiens peuvent être au bord du burn-out ? Parfois, ça peut être le cas, et la Bible nous invite à faire une pause, et notamment le livre des psaumes. Et quand vous lisez le livre des psaumes, comme c'est un livre de cantiques, comme dans les cantiques, il y a des strophes, il y a des refrains, et il y a des temps de pause. Et on va commencer à regarder justement la première référence. C'est important, je ne sais pas comment vous lisez les psaumes, mais peut-être que des fois vous les enchaînez les uns derrière les autres. Mais il faut respecter les temps où il est marqué le mot « pause ». Alors on va lire par exemple le psaume 3 verset 4. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Amen. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Pause. Pause. Une pause après la réponse de l'Éternel. Nous prions et Dieu nous répond. Amen. Oui, il vous répond, j'espère. Oui. Alors, des fois, selon ce qu'on lui demande, il va nous l'accorder. Dieu qui sera d'accord, il va répondre oui. Parfois, il répond non. Des fois, il nous dit non, le Seigneur, lorsque nous lui demandons certaines choses. Tout simplement parce qu'il sait que ce n'est pas forcément meilleur pour nous, le bon pour nous. Puis, je ne sais pas s'il est normal, le Seigneur, mais il y a parfois des peut-être. Parce qu'on demande des choses qui arrivent trop vite, que l'on demande trop vite. Et le Seigneur les a prévues, mais pour un autre temps, pour un temps plus lointain. Mais le Seigneur veut quand même nous les accorder. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Est-ce que nous prenons le temps de considérer la réponse à notre prière, la réponse de la parole de Dieu à nos prières? Est-ce qu'on prend le temps de recevoir cette réponse? Et puis, est-ce qu'on suit aussi la direction, la réponse que le Seigneur nous donne? Ça, ce sont des questions qui sont bonnes à se poser. Une pause après la réponse de l'Éternel. Il faut méditer ce que le Seigneur nous dit, que ce soit au travers de sa parole, parce que bien souvent, on a souvent dans les églises des personnes qui disent « Mais le Seigneur ne me répond pas, j'ai l'impression qu'il m'abandonne. » Et parfois, le silence est une réponse en soi, qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes, qui nous invite à revenir sur la réponse que Dieu nous a donnée peut-être bien auparavant, comme cette pause en plein milieu de la parole entre le livre des Malachies et puis le Nouveau Testament, 400 ans de silence. Cela permet de réfléchir, n'est-ce pas? Et quand on lit le livre de Malachie, on comprend qu'on a besoin de réfléchir. Dieu remet en exergue et pointe le doigt sur tellement de choses, des choses sur lesquelles le peuple de Dieu ne voit plus, ils sont comme aveugles. Et alors Dieu va leur donner du temps pour qu'ils se posent et qu'ils méditent sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est la réponse aussi que Dieu veut nous donner, n'est-ce pas? Combien de fois nous cherchons et nous attendons qu'un ange du ciel arrive devant nous et puis nous dise la réponse de Dieu. Et pourtant le Seigneur nous dit « Mais tu as un livre là, un livre dans lequel je te réponds. » Un livre qui est vivant, un livre qui n'est pas comme les autres, amen. C'est une parole vivante, efficace. Et cette parole vivante, elle vit, et lorsqu'on la lit, lorsque l'on prie avant de la lire et qu'on demande la réponse de l'Éternel, lorsqu'on demande la direction de Dieu, alors il nous éclaire de sa parole d'une manière toute personnelle. Alléluia. Il nous répond même dans toute situation que nous pouvons traverser. Dieu est précis dans sa parole. Il y a une sœur de l'église de Cannes qui me racontait il y a quelques années que son mari n'était pas au Seigneur, et alors il était très agressif avec elle et il la menaçait souvent de la mettre dehors, etc. Et un jour il s'est trouvé qu'il y a eu vraiment un conflit assez important, et elle l'a mise au défi de lire la Bible pour être convaincue par la parole de Dieu, par Dieu, pour dire mais Dieu existe. Lis la parole de Dieu. Alors il a ouvert la parole de Dieu, et alors qu'il était encore dans cette agressivité-là, il l'a quand même ouvert, et puis il a pointé le doigt, et puis il y avait ce verset, ne prends pas le risque de combattre contre Dieu. Et là, ça l'a calmé sur place, ça l'a confondu. La parole de Dieu parle avec précision. Amen. Gloire à son nom. C'est la parole de notre Dieu, et il répond de sa montagne sainte, et il répond au travers de la parole. Que son nom soit béni. Une pause au verset 8 encore. Verset 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Une pause pour recevoir la bénédiction de Dieu. La plus grande des bénédictions, elle est dit ici, c'est le salut qui se trouve auprès de l'Éternel. C'est notre plus grande bénédiction, frères et sœurs. Ne l'oublions jamais, ne le négligeons jamais, comme le dit aussi l'apôtre. Ne négligeons pas un si grand salut. Il y a parfois, nous considérons la bénédiction matérielle, la bénédiction de l'ordre du miracle, de la guérison, et nous nous y attardons. Mais Dieu, rappelons-nous que la plus grande bénédiction, c'est le salut. Et même si nous rentrons dans l'éternité malades, eh bien si nous sommes sauvés, c'est bien ça le principal. Amen. Bien sûr, nous aspirons à la guérison et nous attachons aux promesses du Seigneur. C'est sa volonté qui s'accomplit, c'est sa souveraineté qui répond. Mais le principal, c'est le salut. Une pause pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et ceux qui sont sauvés, à ceux-là, Dieu accorde sa bénédiction, et une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, nous dit la parole de Dieu. Une bénédiction qui s'étend jusqu'à combien de générations ? 1000. Waouh. On peut voir loin là, hein. On a le temps de voir venir. Mais si on s'éloigne de lui, c'est la malédiction qui s'étend sur... Eh oui, quelques générations aussi. Alors cherchons la bénédiction de Dieu, et puis bénissons-nous les uns les autres, bénissons l'église dans laquelle nous sommes, bénissons notre situation, glorifions Dieu en tout temps, en toute occasion. C'est auprès de l'Éternel que nous pouvons l'avoir. Allons maintenant au chapitre 4, verset 4. Nous avons aussi une pause. Verset 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. Le silence, notre silence, est une pause aussi. Une pause pour se taire. Et se taire pourquoi ? Pour écouter notre Dieu. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. C'est un chant. Si je me tais. Comme les brebis, nous écoutons la voix de notre berger divin et nous nous taisons pour entendre dans quelle direction il veut nous mener. Combien de fois nous parlons trop vite ? Pour telle ou telle situation, nous nous tracassons, nous avons des angoisses et nous mettons à en parler à l'un, à l'autre, Taisons-nous et laissons Dieu agir. Amen. Sommes dans une situation difficile, laissons Dieu agir. Notre vie de prière, comment est-elle ? Est-ce un monologue ou un dialogue ? On a été habitué dans nos églises à parler au Seigneur, et puis après, bon, on attend la réponse, mais on peut aussi avoir un dialogue dans notre vie de prière personnelle, dans notre relation avec Dieu. Ayons un dialogue avec le Seigneur. Et prenons le temps, une pause, pour écouter ce qu'il veut nous dire. C'est important. Le psaume 7, verset 6. Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Et il dit cela si j'ai de l'iniquité dans mes mains pour quelqu'un. Pose. Et puis ensuite il va le dire, lève-toi ô Éternel dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Une pause au cœur de la détresse. Ça paraît étonnant, hein, parce que la détresse, on veut vite s'en sortir, vite partir. Mais parfois, il faut prendre une pause pour comprendre quelle est la situation qui nous entoure, dans quel contexte nous sommes, et s'attarder sur quelle va être la solution que le Seigneur va me donner. Les adversaires sont nombreux, n'est-ce pas ? Ils sont de tous ordres, spirituels, physiques. On a des adversaires dans notre vie, on en rencontre. La vie n'est pas faite de pétales de roses, un chemin sans cailloux. Cet après-midi, on marchait dans les chemins de la forêt, il y avait là un gros caillou. C'est un obstacle, n'est-ce pas, sur la route. Et nous avons aussi des fois des cailloux qui rentrent dans les engrenages de notre vie. Eh bien, prions, simplement, faisons une pause pour que Dieu agisse. Le juste prie pour la justice. Et ici, David prie pour la justice. Si j'ai fait quelque mal, bien que c'est normal que les ennemis me poursuivent, puisque je leur ai fait du mal. Mais, comme je n'en ai pas fait, eh bien Seigneur, lève-toi. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis pour moi, finalement. Il y a un autre verset dans la parole de Dieu qui nous dit... L'Éternel combattra pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous agitez de toutes parts?
Non.
Vous criez en courant? Non. Vous gardez le silence. Amen. L'Éternel combat pour nous. Parfois, il nous faut prendre l'armure qui est décrite dans Éphésiens 6. Et parfois, il faut laisser le Seigneur faire parce que ce n'est pas de notre ressort. Le juste prie pour la justice et il... laisse une pause, il se pose pour laisser le Seigneur le justifier. Qui accusera les élus de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui justifie, alléluia. Amen. On continue, ça va, vous êtes là?
Oui.
Oui. On tient bon. Psaume 24, allez, on fait un petit saut. Jusqu'au psaume 24. Verset 10. Verset 10 du psaume 24. « Qui est donc ce roi de gloire ?» Réponse, « L'Éternel des armées. » Voilà le roi de gloire. Et pour le laisser passer, pour le laisser entrer, on fait une pause. On fait une pause. On le laisse passer, on le laisse entrer dans notre vie. Nous avons besoin parfois de faire l'état des lieux sur la place que Jésus occupe dans notre vie. Il peut avoir été roi en tout début de notre vie, puis passer à seigneur, c'est un peu plus petit, à maître, et puis serviteur, et puis esclave. Parfois, Jésus est esclave dans notre vie parce que nous avons besoin qu'il soit à notre service, n'est-ce pas, pour toutes sortes de demandes, de requêtes. Et il faut qu'il soit le roi. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui doit nous donner la direction de notre vie. Amen. C'est nous qui devons être esclaves du Seigneur. Et cet esclavage est fait d'une liberté qui est incommensurable. C'est une liberté à gérer, qu'il faut bien gérer. Mais il faut qu'il soit le roi et qu'il le reste. Et dans toutes les parties de notre vie, dans tous les domaines. C'est pas la vie spirituelle d'un côté, la foi d'un côté, et puis notre vie professionnelle, notre vie familiale de l'autre. Non, tout est lié. Tout est lié. C'est ce que nous avons besoin de nous rappeler, de faire l'état des lieux régulièrement. Seigneur, tu es le roi. Tu es le roi de ma vie. Peut-être que le travail vient à prendre fin. Seigneur, tu es le roi. Amen. Peut-être que c'est pas forcément facile. Peut-être qu'on ne voit pas la suite. Seigneur, tu es le roi, tu es le souverain. C'est toi qui vas guider ma vie. Peut-être qu'une période dans notre vie, une saison s'arrête, nous ne voyons pas la suite venir. Beaucoup de questions peuvent venir à notre esprit. Laissons-les au Seigneur. On continue, psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. Entre deux pauses. Il faut une pause pour pouvoir dire et reconnaître son péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen, alléluia. Tu as effacé la peine de mon péché. Dieu efface notre péché. Mais il ne faut pas que nous le fassions ressortir. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. À chaque moment où nous demandons sincèrement pardon au Seigneur et que nous nous engageons à ne pas recommencer, bien sûr, c'est pas quelque chose qui doit se répéter, alors Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Prenons une pause, nous aussi, pour oublier et pour refuser les paroles accusatrices de l'ennemi. Parce que Dieu a oublié, et puis le diable, lui, il essaye de ressortir les vieux dossiers, n'est-ce pas? Puis il accuse, et puis il dit, mais ça, oui, cette chose que tu as fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, Dieu, pour Dieu, c'est oublié. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. C'est oublié, c'est effacé. Du moment que nous avons demandé la grâce de Dieu, le pardon divin, alors c'est oublié, et nous devons refuser ces paroles-là, disant, toi, tu n'as aucune affaire. Dans cela, tu n'as aucune part dans cette affaire, c'est entre les mains du Seigneur. Et alors, nous devons prendre une pause pour considérer l'œuvre salvatrice de notre Seigneur. Toujours se remémorer le salut de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, combien elle est grande, combien son sang a coulé pour pardonner et effacer nos péchés. Où sont-ils nos péchés? Eh oui, au fond de la mer. Allez, une autre pause, une pause qui va se rapprocher du refuge, puisque c'est une pause pour se réfugier. Toujours au psaume 32, au verset 7. « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Et voilà pourquoi nous chantons ici des chants de délivrance. Amen. Alléluia. Lorsque le combat est dur et fatigant, il est bon de se reposer pour repartir ensuite plein de vigueur. Et lorsque nous venons nous réfugier, nous prenons un temps loin des bruits de ce monde, loin de toute occupation, alors nous pouvons vraiment avoir le temps de nous ressourcer. Et chaque année que nous venons ici, nous rechargeons les batteries pour repartir plein de vigueur pour l'année à venir. C'est long une année finalement. C'est court mais c'est long. Quand c'est spirituel, quand il y a du combat, lorsque l'on témoigne à longueur de journée, lorsque l'on est dans l'activité de l'Église à longueur d'année. C'est usant, c'est fatigant, c'est plaisant bien sûr, amen. Mais il y a aussi de l'usure et il est important de prendre des temps pour se reposer. Parce que sinon, si on ne prend pas de temps pour se reposer, eh bien, au fur et à mesure du temps, on va commencer à se retrouver, à peut-être commencer à critiquer les certaines choses qui se font et qui ne sont pas selon notre goût. Et puis on va commencer peut-être à avoir une certaine amertume par rapport à la vie de l'Église, etc. Parce qu'on est dans une routine et on est sous pression 24 heures sur 24, en tout cas d'année en année. Il faut prendre des temps, dire stop, je me repose. Je me repose, oui, mais pas du Seigneur. Le Seigneur n'est pas en vacances, le diable non plus d'ailleurs. Et lui, il continue aussi son œuvre. Je me repose, mais pour me ressourcer dans la parole de Dieu. Alléluia. Et j'ai lancé sur la radio dont je m'occupe, Vital Radio, et aussi à l'église de Montrouge, le défi de l'été, puisque maintenant c'est un défi, de justement couper, et pas forcément prendre un jeûne de manger, de nourriture, mais peut-être, vous savez, le jeûne c'est quelque chose que l'on fait parce que on veut prendre du temps qui est d'habitude pris pour autre chose, et notamment celui de manger. On mange beaucoup en France, et beaucoup de temps, et de nombreuses fois, et du coup, on peut jeûner par rapport à cela. Mais il y a aussi d'autres choses qui nous préoccupent dans notre vie, qui nous occupent et qui nous prennent du temps, comme Internet, n'est-ce pas? Et oui. Alors, j'ai lancé le défi d'un jeûne d'Internet. Et pendant 15 jours, là, je suis sans Internet, coupé. Il faut couper parfois. Peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est la télé, peut-être que c'est autre chose dans votre vie qui vous accapare du temps. Faites un jeûne de cela. Prenez du temps pour vous ressourcer auprès du Seigneur. Il y a 5 ans, j'étais dans le Lot. Pas de réseau, là, c'était clair. J'avais pas prévu de ne pas être coupé, mais là, 10 jours sans réseau. Bon, j'ai dit, bon, bah ok. Et puis je me suis plongé dans la parole de Dieu, dans la parole. Et puis j'ai étudié justement le thème de la piété qu'on a vu hier soir. Et j'ai écrit, et puis plus de 50 pages. J'ai dit, Seigneur, c'est extraordinaire. Quand on prend du temps dans la parole de Dieu petit à petit, on découvre alors les trésors cachés, les pépites de la parole de Dieu. Vous savez, c'est Jésus qui parle d'un trésor caché, hein. Et il faut parfois gratter et aller en profondeur dans la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu, la lire ne suffit pas, frères et sœurs, il faut l'étudier, la méditer. Aller chercher des commentaires, aller chercher dans l'original, et puis creuser un petit peu comme cela. Lire des livres aussi qui sont édifiants et qui vont nous permettre de nous édifier dans notre foi. Amen. Alors une pause pour se réfugier, prendre du temps. Une pause aussi pour faire le bilan de sa vie. Eh oui, parfois c'est nécessaire. Et on le voit dans le psaume 39, verset 5. Psaume 39, verset 6 plutôt. « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Et de cela aussi, il faut réfléchir, prendre une pause. Une pause pour faire le bilan de sa vie et se rendre compte que notre vie n'est qu'un souffle, que notre vie passe rapidement, que notre vie n'est rien, que sans le Seigneur nous ne sommes rien, et en dehors du Seigneur, que pouvons-nous faire de bon? Et où allons-nous si nous ne sommes pas dans le Seigneur? Quelles sont justement les priorités dans notre vie? Quelles sont les priorités? Il est bon parfois d'y réfléchir. Qu'emporterons-nous dans l'éternité? Est-ce que nous emmagasinons des trésors dans ces lieux terrestres, ou est-ce que nous construisons notre demeure éternelle? Que faisons-nous de notre vie? Il est bon de faire un bilan, savoir comment, si nous sommes attachés à la terre, ou si nous sommes prêts à dire « Seigneur, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, je suis prêt à te suivre, et je n'ai rien dans mon cœur qui est attaché encore à cette terre ». Quelles sont les priorités de nos vies? Faisons parfois le bilan de notre vie, c'est important. On continue une pause, parce que Dieu est pour nous une retraite. Alors, ça rejoint un petit peu déjà notre thème. On va lire le psaume 46, verset 8. « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Il est important d'aller aussi vers les hauteurs, hein, en profondeur, mais aussi vers les hauteurs. C'est un peu paradoxal, mais ça nous montre aussi combien il faut justement nous élever et puis réaliser que Dieu nous appelle à être assis avec Christ dans les lieux célestes et à dominer les situations et non pas à en être submergé des épreuves, mais à les dominer. Oui, nous devons dominer nos difficultés et être dans cette retraite, dans la main de Dieu, en hauteur, surplomber la situation et être avec le Seigneur et prendre une pause justement pour nous élever vers notre Dieu. Être dans la chambre haute, n'est-ce pas? Eh oui, c'est dans la chambre haute qu'il se passe de grandes choses. Lorsque vous étudiez la chambre de la Tsunamite, avec le fauteuil, avec le lit, tout cela, il y a à chaque fois des symboliques qui sont fortes pour la relation avec Dieu, pour la piété personnelle. Et la chambre haute est aussi un témoignage de la puissance de Dieu déversée. C'est le renouvellement auprès de notre Dieu. Psaume 49, verset 13, verset 14. « Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours, les discours de l'homme, hein, les discours du monde. » Une pause après les discours du monde, après la télévision, après les journaux télévisés qui nous chargent notre esprit, nos pensées de mauvaises nouvelles pour la plupart du temps. Nous avons besoin de prendre une pause pour faire le nettoyage du disque dur. Hein. Faut faire le nettoyage de tout cela et trier nos pensées, faire une pause sur la télécommande, faire une pause. Ne restons pas le soir sur la télé, mais sachons prendre, appuyer sur le bouton pause, même arrêt, pour avoir un culte de famille. Avoir un temps de prière ensemble, en couple, avec les enfants, des chants, des petits chants, et avoir une vie de prière ensemble pour terminer la journée. c'est principal, c'est capital. Si vous voulez voir vos enfants grandir dans les voies du Seigneur et s'en rappeler, même s'ils oublient un temps, comme la parole de Dieu le dit, il faut avoir ce temps d'intimité, ce temps de présence. Cela disparaît petit à petit dans les foyers, peut-être parce que ce n'est plus tellement enseigné ou parce que ça se transmettait avant de chrétien en chrétien. Mais continuons cette pratique aussi. Après les discours du monde, faisons une pause ensemble. Une pause pour avoir le temps de changer de direction. Psaume 52, verset 5. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Dieu nous permet des temps de pause, des occasions pour pouvoir changer de direction. Alors que nous étions plongés dans le mensonge, peut-être à aimer le mal, Dieu nous a permis d'avoir une pause pour changer de direction, changer de cœur, changer d'attitude, changer de mentalité. Amen. Oui. Vous avez changé dans cette direction? Changer dans la droiture. Et vous savez, parfois, on lit la parole de Dieu, on entend des centaines de prédications, mais quel est le résultat dans notre vie? Que mettons-nous en pratique? Est-ce que l'on change réellement de direction? Est-ce que l'on change? Est-ce que notre cœur se transforme? Est-ce que notre cœur tortueux se transforme en un cœur doux, tendre, malléable, enseignable? Pas toujours, hein. Des fois ça grince, hein. Des fois on fait la grimace quand on entend certaines choses sur lesquelles le Seigneur nous remet en place. Mais c'est pour notre bien. Vous savez, pour remettre un arbre tortueux, il faut user de beaucoup de force et de beaucoup d'appui, parce que les plis sont pris, n'est-ce pas? Les plis sont pris, il faut que le Seigneur puisse nous transformer. Et cela se fait et par la parole de Dieu, lorsque l'on prend des pauses, et aussi par la personne de l'Esprit, qui vient nous édifier, qui vient nous construire. Et pour cela, il faut prendre des temps de pause. Amen. Psaume 54, une pause pour réapprendre la foi en Dieu. Psaume 54, verset 3. Alors, 4 et 5. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie, ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Pause. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-les dans ta fidélité, etc. Le psalmiste, souvent, peut arriver dans un état de détresse, comme le prophète Jérémie, qui en a vu des vertes et des pas mûres, hein, comme on pourrait dire. Et c'est pour cela que le livre des Lamentations a été écrit. Nous passons parfois par des moments où nous avons l'impression que la foi a disparu de notre cœur. Nous n'avons plus d'élan vers le Seigneur. Un petit peu comme cette main desséchée dont on parlait ce matin. Et au travers des moments de pause, lorsque nous méditons sur Dieu pendant les nuits, pendant les pauses, il nous donne de reconsidérer, il nous donne de réapprendre la foi en lui, à reprendre courage et à lui faire confiance tout à nouveau. Alléluia. Et au travers de cette pause, voyez l'attitude, voyez l'écriture juste après. Seigneur, au secours, hein, des étrangers viennent sur moi. C'est la fin, hein, c'est la lamentation. Mais ce que je veux repasser en mon cœur. Et lorsque l'on repasse les choses en son cœur, il faut prendre une pause pour cela. Repasser en son cœur, c'est que les bontés de l'Éternel. Amen. Eh oui. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. À combien notre âme flanche? Combien notre âme passe par des turbulences? Le Seigneur veut nous redonner la foi. Veut nous redonner un zèle tout nouveau. Gloire à son nom.
Amen.
Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ta parole, parce que le moindre mot, petit mot de ta parole a une importance. Et le moindre petit mot comme ce mot pose peut nous amener à comprendre et à voir, Seigneur, combien tu veux nous apprendre tellement de choses dans ces temps de repos, dans ces temps, Seigneur, où nous voulons nous ressourcer, dans ces temps où nous voulons recharger nos batteries. Seigneur, donne-nous de pouvoir prendre, Seigneur, de temps en temps et plusieurs fois ces temps de pause, Seigneur mon Dieu, au-delà des temps quotidiens avec toi. Seigneur, donne-nous de nous arrêter dans dans les discours de ce monde, dans la pression, l'accélération de ce monde, dans la difficulté, dans la détresse. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous réfugier en toi. Seigneur, donne-nous de pouvoir monter, Seigneur, jusqu'à cette retraite, jusqu'à ce refuge, Seigneur, et pouvoir, Seigneur, plonger dans les profondeurs de ta parole. Seigneur, nous édifier, nous construire, et pouvoir ensuite mettre en pratique cette parole tout au long de l'année, pour Seigneur, que nos cœurs soient changés premièrement, et qu'ensuite nous puissions te servir dans l'assemblée, que nous puissions bénir, Seigneur, aider, Seigneur, encourager, te servir et servir les autres, nos frères et sœurs, et tous ceux qui viendront, Seigneur, dans l'année à venir, toutes les nouvelles personnes dans chacune de nos assemblées. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions être, Seigneur mon Dieu, des agents de bénédiction, des canaux de bénédiction dans chacune de nos assemblées, Seigneur. Que les anciens puissent être un réel témoignage pour les plus jeunes, et que les plus jeunes puissent être auprès des anciens pour en apprendre, Seigneur, de la foi et de la force de la foi. Seigneur, merci, Seigneur, de protéger chacune de nos âmes, dans le nom de Jésus.
Amen.